Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Histoire du soir avec Olivier. Nous sommes dans une émission enregistrée puisque celle-ci aurait dû passer le 24 mai, mais pour des raisons d'emploi du temps, ce sera donc en différé. Ce soir, donc nous allons parler de ce que l'on pourrait considérer comme des mythes, des villes mythiques, notamment de l'Antiquité grecque, de la mythologie grecque, mais qui un jour, ne sont plus du tout devenus mythiques puisque des archéologues les ont retrouvés. On connaît le cas, bien sûr, du fameux labyrinthe du Minotaure en Crète, et des fouilles menées par l'archéologue Sir Arthur Evans au XIXe siècle, qui a redécouvert cette civilisation qui était considérée comme totalement mythique. Et ce soir, on va se pencher sur une autre ville de la mythologie grecque, bien connue à cause de notamment l'Iliade, du poète et chroniqueur Homère de l'Antiquité grecque. Cette ville, c'est la fameuse ville de Troie. Troie, qu'est-ce que c'est ? C'est une ville qui est située en Asie mineure. Donc aujourd'hui, c'est en Turquie. Turquie continentale, la Turquie, la partie asiatique, l'Asie mineure de la Turquie. Et Troie, jusque à ce que l'archéologue dont on va parler ce soir, qui s'appelait l'archéologue allemand du nom de Heinrich Schliemann, donc celui-ci ne la retrouve justement au terme d'une saga absolument incroyable qu'on va essayer de résumer, ne la retrouve au XIXe siècle. Eh bien, cette ville était complètement considérée comme mythique, un peu comme on dirait l'Atlantide, comme on dirait je ne sais quel lieu archéologique mythique. Et ça va être démystifié, si je puis dire, puisque cette ville va être donc totalement redécouverte. Alors, cette ville donc est située à l'entrée de ce qu'on appelle l'Hellespont, non loin de la mer Égée. Elle est en Troade, c'est la région donc d'Asie mineure dans laquelle elle se trouve, donc la Turquie actuelle. Et le nom d'origine de Troie viendrait du Hittite, Tarwiza, qui veut dire rivière, selon les linguistes. Ou de Trost, du nom et du héros éponyme de Troie sur la mythologie. Elle est aussi appelée Teucri par les poètes du nom de son premier roi mythique, Teucros de Phrygie, ou encore Ilios ou Ilion, ça donnera le nom de l'Iliade, vous l'avez bien compris, qui selon donc les linguistes pourrait provenir du Hittite Vilusa, et selon la mythologie du nom de son fondateur Ilos avec l'Éolide, la Troade, était une des sous-régions de la Mycie. Elle était également connue sous le nom de Phrygie, Hellespontique, à l'époque des Achéménides. Alors elle est mentionnée pour une première fois, on l'a dit, par le poète Homère. Elle est au centre de nombreuses légendes de la mythologie grecque, et bien sûr, de ce que l'on appelle la fameuse guerre de Troie. C'est pour ça que on a cru très longtemps que tout cela était complètement mythique, puisque cette guerre de Troie, c'est justement, et on va rapidement en parler dans cette présentation de la ville de Troie, c'est le fameux enlèvement de la princesse donc de Troie, de la cité de Troie, par le prince de la ville, hein, qui l'enlève, donc, puisque Hélène était la, comment dire, la fille, hein, du roi de Sparte, et donc ce prince troyen va l'enlever, on va voir ça dans un instant, et bien sûr ça va déclencher une guerre donc contre la Grèce, hein, occidentale, hein, et cette partie orientale sur l'Asie mineure. Alors, selon la légende, Dardanos est considéré comme le fondateur de la dynastie des rois troyens. Il fulgurige et trouve l'asile auprès du roi Teucros de Phrygie. Après la mort de Teucros, il devient le seul héritier en se mariant à Batia. Donc voilà pour la fondation de Troie. Alors on a deux sources évidemment légendaires sur cette ville. La deuxième, on l'a évoqué un instant, mais on y reviendra, c'est le fameux enlèvement d'Hélène, la fille du roi Ménélas, roi de Sparte, hein, qui déclenchera cette guerre, relatée dans l'Iliade, hein, Iliade. Et puis la première, c'est l'expédition dite d'Héraclès contre Troie. Alors là, il s'agit évidemment de l'épisode de l'Antiquité, de la mythologie des 12 travaux d'Hercule, hein, expédition d'Héraclès, c'est-à-dire qu'Héraclès, qui suivait Jason à la recherche de la toison d'or, trouve Hésiode enchaîné à un rocher sur le rivage de Troie, entièrement nu et paré de ses seuls bijoux. Il brise ses chaînes et offre de tuer le monstre marin en échange de 2 chevaux blancs immortels que Zeus avait offerts à Tros, le grand-père de Laomédone, pour le prix de l'enlèvement de Ganymède. Alors les Troyens construisent alors un haut mur à quelque distance du rivage. Lorsque le monstre atteint le mur, il ouvre ses énormes mâchoires et Hercule, donc Héraclès, s'engage armé dans la tout armé dans la gorge du monstre. Après 3 jours, il sort victorieux du ventre du monstre. Laomédone aurait alors trompé Héraclès en substituant 2 chevaux ordinaires aux chevaux immortels promis. Héraclès s'embarque très en colère après avoir menacé de mener la guerre contre Troie. Alors, il y a ce combat, Héraclès ordonne l'assaut immédiat de la ville, et c'est Télamone qui réussit à créer une brèche dans la muraille et à pénétrer dans la ville. Héraclès tue Laomédone et tous ses fils, à l'exception du jeune Podarques. Hésiode est attribué à Télamone en récompense. Donc, premier épisode, donc, c'est cette histoire, cet épisode, hein, lié aux 12 travaux d'Hercule. Et puis la seconde, bah, c'est la guerre dite de Troie, la fameuse guerre, histoire légendaire de la guerre entre donc les Hélènes, hein, les Grecs et les Troyens. C'est le sujet principal de l'Iliade d'Homère, des épopées du cycle troyen, et l'un des sujets de l'Énéide, hein, de Virgile, puisque dans laquelle Énée, hein, doit abandonner sa ville de Troie, événement qui mène très indirectement à la fondation de Rome, hein, Énée étant un ancien roi de Troie. Récit apocryphe servant bien entendu à l'édification de l'Empire romain. L'origine de la guerre de Troie, donc vous le savez, c'est l'enlèvement par Paris, donc ce prince troyen dont je parlais tout à l'heure, d'Hélène, épouse du roi Ménélas, roi de Sparte. Pour punir les Troyens, les rois grecs se coalisent et mettent le siège devant la cité. Au bout de 10 ans de siège, les Grecs réussissent à pénétrer dans la ville grâce à une ruse d'Ulysse. Donc Ulysse, bien sûr, c'est le fameux aventurier mythique, hein, de la fameuse Odyssée, hein, cette fameuse Odyssée avec tout un tas d'aventures qui arrive à ce roi de l'île d'Ithaque. Et Ulysse, donc, par la ruse, eh bien, va avoir une idée, va avoir aidé les Troyens, enfin aider les Grecs, les Hélènes, hein, et permettre tout simplement par la ruse, en faisant un cadeau, hein, aux Troyens, enfin un cadeau empoisonné, c'est-à-dire un immense cheval en bois dans lequel les armées grecques se sont cachées, et ça va leur permettre évidemment de s'emparer de la ville sans coup férir. Donc durant cette période, donc de la guerre de Troie, qui est quand même ce qui nous intéresse le plus ce soir, le roi est Priam, hein, et la reine est Hécube. Alors la Troie historique, sur l'Iliade Troie était située sur les 2 sources de Scamandre, hein, du Scamandre, l'un dégageant des vapeurs chaudes et l'autre glacée. Cependant, lorsque les habitants grecs d'Ilion revendiquèrent l'héritage troyen, ils furent qualifiés de vaniteux. De plus, le géographe grec Strabon déclara que le site véritable se trouvait à 5,5 km de là, au village dit des Troyens. C'est ainsi que donc le voyageur français, puisque bien sûr il y a toute cette histoire de la redécouverte, le chevalier affirma au XVIIIe siècle, donc juste un peu avant Schliemann, que Troyes était le village de Bunarbashi. Ce nom signifie tête de source, qui se trouvait au pied d'une colline rocheuse d'où jaillissent plusieurs sources. Pendant deux générations, des chercheurs oublièrent que ces sources avaient la même température, mais il est vrai que tel phénomène de géophysique sont rarement effectivement pérenne. Ensuite, nous arrivons, et nous allons le développer dans un instant, à notre fameux archéologue Schliemann, qui, lui, va effectivement redécouvrir, alors non pas, on le verra tout à l'heure, la Troie de Paris, d'Hélène et de Priam, mais le site, puisque on comprendra assez rapidement qu'il y a eu à Troie plusieurs époques. On a compté jusqu'à, je crois, 7 ou 8 strates différentes dans cette ville. Voilà ce que l'on peut dire pour présenter le cadre de la ville, même de Troyes. On a quand même de manière assez abondante pas mal de blockbusters récents sur Troyes, notamment un sorti en 2004 qui raconte toute la guerre de Troyes, qui s'appelle Troyes, film de Wolfgang Petersen. Hélène de Troyes aussi, un film américain. Bon, c'est un thème récurrent du cinéma dit de péplum, mais justement, nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est pas que c'est du péplum, mais c'est que justement cette ville était bien réelle, et a bel et bien été redécouverte. Alors à l'origine de tout cela, il y a bien sûr Heinrich Schliemann, cet archéologue du XIXe siècle qui va mettre la main, et il était bien le seul à y croire, sur la ville de Troyes. Alors Schliemann, donc c'est un homme d'affaires allemand, un pionnier dans le domaine de l'archéologie. Il est né à Neubukow en Allemagne, Mecklembourg, le 6 janvier 1822. Il mourra à Naples, évidemment, le 26 décembre 1890. Il a été le redécouvreur de Troyes et de Mycène, ce qui n'est pas rien non plus, puisque ça, c'est une autre ville, mythique, mais qui est un peu moins connue, mais qui nous intéresse tout autant. Alors, ensuite donc, Schliemann, donc né en Allemagne le 6 janvier 1822, c'est le fils d'un pasteur protestant. Il doit interrompre ses études à 14 ans pour devenir commis d'épicier. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, il change de vie, s'embarque alors pour le Venezuela. Il entre donc comme aide-comptable dans une maison de négoce à Amsterdam, puisque son navire ayant fait naufrage, il s'est redéployé aux Pays-Bas. Il enchaîne plusieurs métiers avant d'être renvoyé en 1846 à Saint-Pétersbourg, où il réussit si bien d'ailleurs ses études qu'il décide de s'établir à son compte comme négociant en gros. En 1851, il ouvre un bureau d'achat et de revente d'or, donc il est dans l'import-export, etc. En 1822, il a deux enfants qui survivent sur Troyes, Nadezhda et Sergueï. 1858-59, il voyage pour ses affaires. La Californie sans une terre d'avenir, il s'y installe, le temps de spéculer sur l'or, c'est la ruée vers l'or. Il devient alors banquier. Revient en Russie, profitera notamment du blocus de la guerre de Crimée, tout ça dans cette période-là, et notamment le commerce d'armes, de munitions, d'approvisionnement, etc., etc. Alors, il est à la fois touriste et homme d'affaires, Schliemann. Il va parcourir l'Égypte, l'Inde, le Japon et la Chine en wagon de deuxième classe. Il observe, prend des notes, amasse des documents. Au retour, donc, il va rédiger ses récits de voyage. Donc, ensuite, évidemment, en 1868, bah, c'est le fameux choc, puisqu'il va visiter la Grèce pour la première fois, et la même année, il rencontre Frank Calvert, le vice-consul des États-Unis dans les Dardanelles. Celui-ci a acheté la moitié de la colline d'Issarlik en Turquie, où les anciens situaient la ville de Troie. C'est donc ce personnage américain qui va lui mettre lui mettre l'eau à la bouche, hein, bien sûr. De ce chantier, de ces fouilles qu'il faudrait faire là. En 1869, Schliemann divorce. Il épouse Sophia Engastrominou, la fille d'un commerçant athénien, qui lui donnera en 1871 une fille, Andromaque, et un fils, Agamemnon, en 1878. La même année, il obtient la nationalité américaine et un doctorat en archéologie. Donc ça c'est assez important parce que ça nous donne le cadre quand même privé de toute cette affaire. Alors tout va commencer dans cette affaire épique en 1870 puisque Schliemann décide de commencer les fouilles lui-même. Autodidacte, il a appris plusieurs langues anciennes et orientales. Il parle notamment le français, le hollandais, l'espagnol, l'italien, le portugais, mais aussi l'arabe et le russe. C'est une méthode singulière. L'apprentissage par cœur d'une œuvre littéraire en version originale. Persuadé, comme les anciens, que les poèmes d'Homère décrivent une réalité historique, il entreprend des fouilles en Grèce et en Asie mineure pour retrouver les lieux qui y sont décrits. Évidemment, tout ça, vous l'imaginez bien, dans les sources plus récentes, c'est-à-dire de l'Antiquité tardive, pouvez-vous dire, toutes ces villes étaient encore debout et n'avaient pas complètement disparu du contexte, quoi. Sur la butte d'Issarlik, il met alors à jour les ruines d'une ville qu'il identifie très vite à Troie. Hein. Les fouilles de grande ampleur ne prêtent pas la peine de conserver ce qui ne paraît pas contemporain à la guerre de Troie, aux yeux de Schliemann, au total 7 campagnes de fouilles vont avoir lieu, et elles mettent à jour 9 habitats superposés, 2000 objets d'art, principalement des vases. En 1882, il engage un jeune archéologue, Wilhelm Dorpfeld, dont certains ont dit qu'il fut sa plus belle trouvaille et qui devint plus tard le directeur de la mission archéologique allemande en Grèce. Il est assisté par un architecte Hoff, du nom de Hoff Hofter, et par l'archéologue Émile Louis Purloff. Alors, il découvre ensuite les ruines de Mycène en 1874, Orchomène en 1880, Tirinthe en 1884, et il va fouiller à Ithaque, la fameuse île, bien sûr, d'Ulysse. Très vite, on pense avoir trouvé la validité des descriptions d'Homère. Schliemann retrouve un masque d'or que l'on pense être celui d'Agamemnon, un grand bouclier de peau de bœuf, couverte de bronze, décrit dans l'Iliade comme appartenant à Ajax le Grand, les fameux guerriers de la guerre de Troie, ou encore une coupe ornée de clous d'or attribuée dans le poème à Nestor. On assimile donc la civilisation de Mycène à celle décrite par Homère, mais les travaux ultérieurs le Ventris et Chadwick sur le linéaire B démontreront plus tard l'invalidité de cette thèse. Alors qu'en 1874, donc, Schliemann prétend avoir exhumé le trésor de Priam et des bijoux d'Hélène, il y a des photos célèbres, des premiers daguerréotypes qui nous montrent justement sa très belle femme grecque. Donc, avec les fameux bijoux d'Hélène, de Troie, le gouvernement turc veut récupérer, en quelque sorte, la mainmise sur ces découvertes majeures et va écarter Schliemann. Les fouilles, tant et si bien, et leur modernisation, reprendront, en fait, autour des années 30, hein, puisque ce sont des savants américains, sous la direction de Carl Blegen, de 1932 à 38, c'est-à-dire que les archéologues ont pu prouver que la septième installation humaine sur le site de Troyes, donc je vous ai parlé tout à l'heure de Strat, hein, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avait été incendiée vers 1250, 1240 avant notre ère. Précisément, l'époque de la guerre de Troie, sur la datation fournie par Hérodote. Donc c'est quand même assez intéressant de voir cette chronologie. Bien que les fouilles de Schliemann n'aient pas été menées selon les règles, il reste un pionnier de l'archéologie grecque, hein, et a ouvert la voie aux recherches sur les civilisations mycéniennes notamment. Schliemann, pour petite indication, très très attristé par toutes ces polémiques, disant que toutes ces personnes qui refusaient en quelque sorte de voir la réalité en face, hein, eh bien Schliemann meurt épuisé en 1890, il avait seulement 68 ans. Alors, voilà, donc ce que l'on peut dire, hein, sur ses fouilles et sur ce très grand archéologue, en tout cas un des pères de l'archéologie moderne. Alors tout cela nous amène évidemment nous concentrer sur quelques réflexions historiques, hein, se dire que effectivement le pari qu'avait fait Schliemann d'une archéologie démystifiée a quand même eu quelques grands coups d'éclat, même si on sait aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de la Troie donc de l'antiquité gréco-romaine dont il s'agit, hein, qu'il en a redécouvert une qui était beaucoup plus récente, puisqu'il y a jusqu'à 7 strates, hein, et donc c'est quelque chose de fort intéressant, et l'intérêt considérable de ce genre de fouille réside quand même dans le fait que bien la règle dont on a quand même parlé déjà dans beaucoup d'émissions consacrées à des sujets bien plus à la rigueur sujets à polémique, c'est de se dire bien que en fait, et notamment chez Homère, et chez Homère c'est évident, on a affaire de toute manière cette équation que dans la plupart des mythes européens, dans la plupart des histoires, des sagas, des dieux, de tout ce qu'a pu écrire Homère par exemple, eh bien, on a toujours une base de vérité. Bien sûr, il n'y a pas de manifestation surnaturelle, comme mentionné dans Homère. Il n'y a pas de sirène. Enfin, quoique, enfin bon, en tout cas, on l'a pas vu. Mais néanmoins, cette ville de Troie a existé, a eu son histoire. Il est toujours facile de critiquer, mais le grand mérite d'Heinrich Schliemann, c'est d'avoir pu ouvrir une voie, d'avoir eu cette conviction que cette ville était là, qu'elle avait existé, et d'arriver à la perpétuer dans les fouilles archéologiques. Il y a eu des polémiques récentes sur Sir Arthur Evans, donc je reviens sur cet autre archéologue, celui de la Crète, la fameuse Crète, la civilisation crétoise minoenne, civilisation tout à fait étonnante, et très en avance pour son époque, et c'est pas très compliqué de faire des comparaisons, puisque Evans avait, lui, alors carrément rebâti des sites en fonction de son imaginaire. Bon, Schliemann ne le fera pas. Par contre, il aura été persuadé d'avoir eu entre ses mains les trésors réels, hein, de de ceci, hein, ça, les bijoux de Hélène, bon, de Troie, il est vraiment persuadé qu'il les avait dans les mains. Mais néanmoins, on ne peut que rendre hommage à ces aventuriers du 19e siècle parce qu'ils ont ouvert, encore une fois, je le répète, et percé une voie. Donc voilà, et encore à l'heure actuelle, bien sûr, Troyes, hein, est un des sites absolument majeurs, hein, quand vous allez dans la partie Asie mineure de la Turquie actuelle, hein, vous êtes bien sûr amené, hein, à visiter ce site. Autre exemple, et combien même ne l'avions-nous pas évoqué, c'est par exemple, là on traverse un peu plus au sud le bassin méditerranéen, il s'agit par exemple du phare d'Alexandrie. Alexandrie, cette ville pourtant récente, puisque fondée au 4e siècle avant notre ère par Alexandre le Grand. Alexandrie, recelée dans son centre-ville et tout autour, des véritables trésors, des merveilles extraordinaires, dont le fameux phare d'Alexandrie, hein, cette tour gigantesque qui est partie des sept merveilles du monde, et qui avant qu'on ne retrouve en effet dans l'île de Pharos, quelques vestiges, eh bien, on n'y croyait pas, hein, tout simplement. Hein. Phare d'Alexandrie, on considérait que ça n'existait pas. Bah, là aussi, hein, voilà. Et puis, ensuite, on peut rêver, parce que, et on terminera d'ailleurs cette émission sur ça, bien des choses qui sont dans la même écho, les petites équations que j'évoquais tout à l'heure, restent à découvrir. Hein. Notamment, par exemple, le fameux tombeau d'Alexandre le Grand. On le cherche toujours. Hein. Ce roi qui a dominé le monde, hein, est mort seulement au tout début de la trentaine, Alexandre le Grand, évidemment, sa tombe, dont quelques historiens sérieux nous parlent, hein, et surtout des chroniqueurs de l'époque, hein, qui l'avaient vu, hein, évidemment, et quelque part, Alexandre, ça va où ça, c'est un mystère total, mais un jour, évidemment, les archéologues, sans doute, seront amenés à retrouver tout cela. Donc voilà un peu ce que l'on pouvait dire sur Troyes, sur sa redécouverte. Il faut savoir que Schliemann a dû se battre, hein, quand même, pour convaincre notamment les autorités scientifiques, pour arriver à les convaincre, hein, de la réalité, hein, de cette ville mythique. Troyes a vraiment existé, c'est quand même en grande partie parce que un homme comme Heinrich Schliemann, hein, y a cru, hein, tout simplement. Hein. Inutile de vous dire que dans les sociétés savantes de l'époque, hein, quand on disait comme Schliemann, je vais prendre l'Iliade d'Homère et m'en servir comme d'une carte pour arriver à retrouver cette ville, tout le monde riait, hein, bien sûr. Et pourtant, il y croyait. Et c'est bien la preuve qu'à l'origine de toutes les grandes découvertes, que ce soit dans les sciences exactes ou les sciences humaines, eh bien, il y a toujours un chercheur, un cherchant qui a la conviction, du bien fondé, si je puis dire, de sa quête. Hein. Et c'est un enseignement important, je pense, sur tout simplement, l'âme humaine, hein, et sa détermination. Nous terminerons le cycle 2017-2018 de cette série d'émissions mensuelles fin juin, et plus précisément, car cette fois-ci l'émission sera en direct, c'est-à-dire le jeudi 28 juin, autour d'une émission sur un ésotériste qui lui aussi puise, bien que du début du XXe siècle, pour la période fin XIXe, début XXe siècle, qui s'appelle Maurice Magre, complètement oublié aujourd'hui, qui a écrit énormément d'ouvrages, notamment sur le Saint Graal, enfin toutes ces choses qui nous intéressent depuis pas mal de temps maintenant. Et voilà encore un personnage intéressant, on fera une petite chronique de ce personnage la prochaine fois, ce qui clôturera notre année 2017-2018. L'émission se poursuivra, cette fois-ci avec une périodicité qui sera sans doute plus lâche, puisque malheureusement le maintien d'une émission mensuelle sur le plan technique et au niveau de mes horaires et de mes charges également de travail que j'ai par ailleurs font que cette émission se poursuivra bien sûr, mais elle sera plus étalée dans le temps, peut-être tous les deux mois ou de façon sporadique, nous le verrons. Je vous remercie donc toutes et tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de la programmation musicale de Radio Terra Zen. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis au revoir et rendez-vous donc le jeudi 28 juin 2018 pour la dernière émission du cycle 2017-2018. Merci, au revoir.